3. Fonctionnement anglais exclusif mis de côté. L'existence du fonctionnement exclusif en anglais retardait l'expansion de cet enseignement dans les autres pays, car l'adoption de cette langue ne se faisait pas assez rapidement. Il y avait aussi un petit problème d'interprétation qui causait problème chez les États-Unis. Le maître ascensionné changea ses projets pour cette question et décida de poursuivre son enseignement dans d'autres langues, dont le français, avec d'autres messagers. 6. De l'Amérique à l'Europe, vers 1950. Après une certaine réussite en Amérique, Saint-Germain se reconcentra sur l'Europe pour améliorer son sort et la spiritualiser. Réorganisation du plan. Quand une tentative plafonne, bloque ou dévie, les maîtres se réorientent et vont poursuivre leur œuvre ailleurs dans le monde. Ils font parfois un saut d'époque, contactent d'autres personnes ou recommencent avec les mêmes lorsqu'elles se réincarnent. C'est dans un tel contexte que Saint-Germain est retourné en Europe où une autre opportunité s'offrait à lui. 1. Fonctionnement en français désormais. Le plan a été modifié. Le plan initial ayant été modifié, Saint-Germain fonctionnait désormais en français ainsi que dans d'autres langues. Il redicta son enseignement dans un nouveau cadre et une nouvelle organisation. Il s'agissait d'un mouvement fondé par l'Élohim de l'amour divin. Sa réussite en Amérique ainsi que dans ce nouveau cadre, couplé à l'occasion de purification qui a fini par représenter la deuxième grande guerre mondiale, ont permis l'ouverture officielle du septième rayon, le début du troisième âge d'or, le début de l'ère du Verseau, ainsi que l'apparition d'une nouvelle civilisation le 15 mars 1955. Une nouvelle alliance était faite avec notre humanité, et le vin nouveau afflua encore une fois. 2. Les peuples choisis. Il est vrai que des groupes d'humains sont parfois choisis comme véhicules d'un nouveau savoir, et qu'ils ont à le répandre dans le monde. Mais ces groupes, ou parfois ces peuples, peuvent être dépassés par d'autres. Et les responsables de la spiritualisation des terriens poursuivent leur travail avec de nouvelles outres. 9. Le Canada au cœur de la comédie. Regardons maintenant ce que le Canada fait dans cette galère, car nous y sommes jusqu'au cou. 1. Les Indiens, origine des croyances et les Incas. Commençons par les Indiens d'Amérique qui croient être les premiers habitants de ces territoires. Pour dire une telle chose, ils doivent limiter leur vision à quelques milliers d'années seulement. De plus, ils doivent faire abstraction de la réincarnation. Ils doivent aussi ne tenir compte que de la génétique. Il faut dire que présentement, il y a des millions de Blancs en Amérique qui ont déjà vécu ici il y a quelques milliers d'années et qui sont les ancêtres des Amérindiens et qui ont autant le droit d'être ici qu'eux. Quant aux croyances indiennes, qu'en est-il? En fait, le peu de choses que j'en sais me porte à croire que l'origine du savoir indien proviendrait de la circulation des anciennes connaissances et croyances incas qui se seraient transmises à travers les millénaires par l'intermédiaire de quelques civilisations très connues qui ont aussi subi l'influence de la connaissance que Saint-Germain avait fait transmettre au peuple inca par ses trois enfants venus s'incarner chez un de leurs rois, comme vu précédemment. Ils en ont probablement fait quelques adaptations. On peut dire que leur conception des êtres du monde invisible, éthérique, semble assez judicieuse, bien qu'incomplète. D'ailleurs, certaines de leurs philosophies de vie, en relation avec les mondes visibles et invisibles ambiants, correspondent assez bien aux vraies connaissances métaphysiques de la réalité globale. Tout porte à croire que Saint-Germain a mis son grain de sel là-dedans aussi. Par ailleurs, qui était Quetzalcoatl? 2. Les Français. Au début de la colonisation de l'Amérique du Nord par les Européens, c'était surtout des Français qui s'y installèrent. Ils y apportèrent également leurs pratiques religieuses chrétiennes. Leur lien au sixième rayon était très fort et les unissait naturellement à la Sainte Famille et, par conséquent, à Saint-Joseph, Saint-Germain. Ils essayèrent de s'entendre avec les Indiens, de commercer avec eux et aussi de les christianiser. 3. Les Anglais. Les Anglais suivirent de peu et y apportèrent leur haine et leur rancœur avec la France et ses ressortissants. Ce fut une série de batailles qui s'enchaînèrent. L'appât du gain les aveugla et pour eux la fin justifia des moyens peu avouables. Les méthodes de conquête, fléau, eau de vie. L'usage de l'eau de vie leur permit d'amadouer les Amérindiens, d'obtenir leur fourrure à vil prix, car on peut difficilement appeler ça du commerce, et aussi de diminuer leur résistance et leur combativité. Cela donna naissance à un fléau qui fait encore des ravages même aujourd'hui, l'eau de vie. La mauvaise habitude de tuer les animaux pour se vêtir est assez coriace et il faudra sans doute attendre encore quelques décennies avant que les humains se réforment. Leur compréhension de la réalité plane trop bas et le respect de la vie animale est assez embryonnaire chez les Nord-Américains. La vie des Français ou des Indiens ne pesait pas lourd dans la balance quand il s'agissait de conquérir les terres de la Nouvelle-France et plus tard du Canada. Une autre méthode fut la déportation. On ne manquait pas d'imagination. Quelques permissions religieuses et sociales furent accordées à ceux qui acceptèrent de ramper et de courber l'échine jusqu'à terre. 4. Essai de Bacon.
L'essai
que l'ex-grand roi Atlante fit en s'incarnant en Angleterre en tant que Francis Bacon aurait pu changer le monde et rendre plus amical le contact avec les Canadiens français. Cela aurait produit une coopération plutôt qu'une confrontation et une domination. En tant que roi d'Angleterre, il nous aurait beaucoup mieux traités. 5. Essai avec Napoléon. La tentative avortée avec Napoléon nous a également beaucoup fait de tort. Avec lui aussi, l'aspect religieux aurait été transformé et réformé. La cohésion des pays européens se serait répercutée sur le futur Canada, lui procurant une grande stabilité sous la tutelle française. La défaite de Napoléon peu obéissant est aussi notre défaite et nous en payons encore le prix. 6. L'Église de Rome. L'influence du christianisme au Canada est évidente et importante dès le début de la colonisation et même sous l'emprise britannique plus tard. L'Église de Rome avait toujours son mot à dire dans les affaires du Nouveau Monde auquel nous appartenions. Aussi, il faut dire que la ferveur était grande. La spiritualité était au cœur de la vie des colons. Personne ne pouvait imaginer l'existence sans elle. Or, travail centré sur Jésus, etc. Bien entendu, Jésus est au centre de l'activité de l'Église de Rome et son histoire officielle est archi-connue et racontée. On compte sur lui. On ne fait rien sans la vie d'un prêtre. Chacun espère une vie future auprès de Jésus dans les cieux, dans le royaume de Dieu. On parle beaucoup de la résurrection de Jésus, mais très peu de son ascension. Aussi, les représentants du christianisme prétendent à la mort de Jésus, car ils ne comprennent pas ce qu'est l'ascension versus la mort. Et puis, sans mort, selon leur conception de la vie, il n'y a pas de résurrection. Jésus et son exemple sont les éléments clés du catholicisme et les autres êtres saints gravitent autour. B. Domination doctrinale. Pensez à la place des gens. Aussi, Jésus serait le seul, l'unique. Les prêtres qui enseignaient cela pensaient à la place des gens et leur imposaient la doctrine de l'Église. Ainsi, ils pouvaient dominer les colons qui répondaient automatiquement « Amen ». Ils se mêlaient de tous les aspects de la vie de leur joie, la famille, la santé, le travail, l'éducation, la politique, etc.